Alain Concolizio, Gelo Bacca Corre.
Bonsoir. Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'ONG congolaise Azado dénonce l'initiative de la CENI d'organiser seulement l'élection présidentielle dans le délai légal et renverrait les élections législatives et locales à plus tard. De son côté, la CENI ne reconnaît pas avoir entrepris une telle démarche. Au-delà de cette polémique, quelles pourraient être les forces et les faiblesses du système qui consisterait à organiser séparément l'élection présidentielle et législative? Je vous invite à participer à cette émission, Maître Jean Bouillou, député national de la majorité présidentielle et membre du PPRD. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Maître Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et membre du RCD. Honorable, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Jean-Pierre Mbouébois, professeur des sciences politiques à l'Université catholique du Congo, ICC. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions également nous sont déjà parvenues. Dio Kapasi de Kananga au Kassai occidental. La majorité au pouvoir s'était plainte du deuxième tour des élections présidentielles faute des moyens financiers. Au cas où il y aurait des couplages, d'où viendrait l'argent pour organiser ces élections législatives? Aussi, je me demande si ces élections interviendront combien de jours après les présidentielles et le nouveau président travaillera avec quel gouvernement? Kipo Bukanga de Kisangani en province orientale. Organiser séparément les élections peut nous conduire à l'asphyxie des autres partis, car le parti vainqueur de la présidentielle va user de son pouvoir afin de rendre moins objectif le résultat des législatives dans le but de gagner la majorité parlementaire. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 809 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 58 et par mail, écrivez-nous à tech@radiotapis.net.
L'ONG congolaise Azado dénonce avec force le découplage de l'élection présidentielle des élections législatives. Cette ONG de défense des droits de l'homme estime que cette initiative que se propose la CENI, Commission électorale nationale indépendante, contient des germes de conflit du fait que le président élu aura du mal à travailler avec un gouvernement non issu de la majorité législative. Cette position de l'Azado était contenue dans son communiqué publié mercredi dernier à Kinshasa. On écoute Maître Georges Kapiamba, vice-président de l'Azado, au téléphone de Kevin Côté.
Vous savez, les choses peuvent avoir changé depuis la publication du communiqué de l'Azado, mais aussi à la suite de plusieurs réactions qui s'en sont suivies. Donc, ça ne peut pas nous étonner. Nous avons reçu des informations, des sources fiables, venant même de la CENI elle-même. Et en dehors de ça, nous ne sommes pas les seuls à avoir donné cette information, parce qu'avant même notre communiqué, il y a eu plusieurs radios périphériques qui ont donné cette information. Donc, nous avons vérifié lorsque nous avons suivi les informations de radio périphérique. Nous avons vérifié ça auprès de certains responsables de la CENI qui nous ont confirmé qu'effectivement il y avait déjà une initiative dans le sens de découpler les élections présidentielles et législatives.
La CENI n'a jamais pris l'initiative d'organiser séparément la présidentielle et les législatives. Ce démenti est celui du président de la Commission électorale nationale indépendante. Le pasteur Daniel Ngoï Mulunda réagit ainsi au communiqué publié la semaine dernière par l'ONG de défense des droits de l'homme, Azado. On l'écoute au téléphone de Guy Maté.
Nous avons été surpris d'apprendre ce communiqué-là. Et l'Azado n'a même pas eu le temps de venir s'informer chez nous. Nous ne savons pas d'où il tient cette information. Nous voulons les inviter à nous visiter, à nous appeler et à s'informer avant de dénoncer. On ne dénonce pas dans le vide. Je voudrais vous dire que depuis notre entrée en fonction, nous n'avons rien planifié. Nous avons fait la remise de reprise. Maintenant, nous sommes en train d'organiser une rencontre de planification qui va s'ouvrir à Lubumbashi à partir de jeudi. Tous les techniciens de la CENI et même les techniciens de la communauté internationale du projet PES et de la division électorale de la MONUSCO, nous allons retrouver tous à Lubumbashi pendant 10 jours. C'est de là qu'on verra le budget et tous, on va sortir un calendrier électoral qui sera basé sur des réalités.
Maître Jean Bouillou, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et membre du PPRD. Au-delà de cette polémique, hein, comme nous l'avons si bien dit dans notre thème, le débat sur le découplage est déjà lancé dans la classe politique congolaise. Le découplage, pour les auditeurs qui vont suivre, c'est ce système qui consisterait à organiser d'abord l'élection présidentielle et ensuite les législatives après. Alors, Maître Jean Bouillou, ce débat est-il opportun?
Bon, comme l'a dit le président de la CENI, ce débat est pour le moment inopportun, dans la mesure où il n'y a encore aucune orientation précise du côté de la CENI elle-même en ce qui concerne les détails sur l'organisation de ces élections et ni sur le calendrier. Néanmoins, à titre purement du débat politique, même à titre
pédagogique aussi,
pédagogique. Est-ce que séparer les élections présidentielles des législatives ou séparer les présidentielles et les législatives des élections locales, comme ça a été le cas en 2006, est-ce que cela porte atteinte aux droits des citoyens quant à la liberté de choix qu'ils doivent exercer dans le cadre d'une démocratie?
Comment vous y répondez?
Je dis non. En 2006, nous avons eu ce cas où nous avons organisé les élections présidentielle et les législatives au niveau national et au niveau provincial en différant les élections locales. Il est vrai que les années qui ont suivi, les budgets n'ont pas engagé la dépense des élections locales. Et c'est malheureux. Cependant, si demain nous nous retrouvons dans un contexte où il faut séparer de nouveau les deux, je souhaite fort que toutes les autres élections qui seraient mises sur des budgets ultérieurs devraient prendre en compte les élections locales également. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas su au niveau local établir des institutions élues. Pour ma part, je vais donc me résumer pour dire que une telle décision n'aurait pas un impact sur l'exercice des libertés publiques dans une démocratie, mais c'est une disposition qui peut être nécessitée par les modalités pratiques, techniques, et ça ne porte donc pas atteinte à l'exercice du droit par chaque individu.
Alors, quand vous parlez des modalités techniques, pratiques, est-ce que ce serait, par exemple, lié au budget, au manque des moyens?
Entre autres, je pense que nous avons débattu de cette question l'année dernière, ou d'une question analogue, notamment celle qui portait sur le changement de date. Nous sommes revenus sur cette problématique des moyens, et nous avons bien dit que lorsqu'on ne peut pas organiser une élection dans un budget, on peut la différer sur plusieurs budgets. Budget 2011, une autre partie sur budget 2012, une autre sur budget 2013. Ce sont des possibilités techniques.
Alors, il y a cet internaute, Maître Jean Bouillou, Léon Bembo, qui dit aujourd'hui, la CENI pourrait se proposer de séparer la présidentielle des législatives. Il apparaît clairement que la fameuse contrainte budgétaire n'était qu'un alibi. En tout cas, les soupçons d'une fraude électorale préparée depuis de très longs mois se confirment de plus en plus.
Non, justement, il est totalement à côté, parce que justement, il s'agit ici d'un cas qui pourrait amener à différer une partie des élections sur le budget de l'année suivante. Donc, on pourrait avoir donc une élection sur le budget 2010, une autre élection sur le budget 2011, une élection sur le budget 2011, et une autre partie sur l'élection 2012. Donc, il est tout à fait dans l'idée contraire.
Oui, il n'a pas raison. Mais on sait que jusqu'à ce jour, vous êtes député national, autorité budgétaire, le gouvernement n'a pas su dégager l'enveloppe qu'il fallait pour l'organisation des élections. Est-ce qu'en 2012, on différait les législatives, ces élections auront-elles lieu, effectivement?
Mais d'abord, il faut toujours dire, il faut souligner que le budget est une prévision de recettes et de dépenses. Ce qu'il y a au budget, ce n'est pas ce que vous avez en main, mais c'est ce que vous espérez avoir. Donc, je veux que mon peuple comprenne au mieux qu'un budget, ce n'est pas l'argent que vous avez en main. C'est de l'argent que vous projetez avoir. Dans le cas d'espèce pour l'année 2012, pardon, 2011, le gouvernement doit grouiller ses caisses, presser les contribuables, etc., pour qu'il y ait quelque chose dans sa comptabilité, dans sa trésorerie. Et d'ailleurs, nous savons que c'est le mois de mars qui est généralement le mois qui rapporte un peu plus d'argent parce que les sociétés commerciales doivent déposer leur budget au plus tard le 31 du mois de mars et donc doivent verser ce qui est dû à l'État avant la date du 31 mars. Donc,
Maître Zambouyou, de façon pratique, si on y arrivait, comment cela se passerait? On a un président élu dans le délai constitutionnel et après, pendant ce temps-là, comment les choses se passent? L'Assemblée, le gouvernement?
Je ne vais pas me lancer dans un futurisme, mais je vais simplement me ramener à la Constitution sur le principe de continuité des services publics de l'État. C'est une théorie générale qui permet de couvrir la plupart des vides qui peuvent surgir dans le contexte d'une vie politique. Il faut permettre à ce que les institutions puissent continuer à vivre jusqu'à leur remplacement. Et ce principe qui était au départ un principe général de droit, il est devenu aujourd'hui un principe constitutionnel.
Maître Moïse Nyarugabo, vous êtes sénateur de l'opposition et membre du RCD. Vous avez suivi Maître Jean Bouillou. Pour lui, ça ne porte pas atteinte aux droits des citoyens. Quelle est votre analyse?
Disons, j'étais moins inquiet avant d'écouter le confrère Maître Jean Bouillou. Je continue à considérer que c'est de la rumeur. J'espère que c'est simplement de la rumeur et que ça va s'arrêter au niveau de la rumeur. Et d'ailleurs, j'aurais voulu, dès lors que l'honorable Mbouyou dit que c'est de la rumeur et le président de la CENI confirme que c'est de la rumeur, on devait arrêter ce débat.
En principe, mais nous allons au-delà.
Bon, alors, si vous voulez qu'on aille au-delà, voici quelques observations. La première, beaucoup de choses ici chez nous commencent par la rumeur. La révision constitutionnelle a commencé par la rumeur. Tout le monde a dit c'est de la rumeur, c'est de la rumeur. Et puis, un jour, on dit on a été à Kingakat, on a décidé, et puis, ça a pris forme et c'est passé. Et donc, je ne serais pas surpris du tout si, au cours de cette session, on nous balançait un calendrier pour dire que, pour ceci, pour cela, il n'y aura pas d'élection présidentielle avec les élections législatives. Je ne serais pas surpris. Mais voici le danger si cela se faisait. Contrairement à ce que confirme ou affirme l'honorable Jean Bouillou, le découplage des élections, c'est une forme de tricherie. Et voici les preuves. Il n'y a pas longtemps, monsieur le journaliste, on nous a cassé les oreilles en disant qu'on ne peut pas organiser le deuxième tour des élections présidentielles parce qu'on n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, on peut trouver de l'argent pour financer les élections générales, présidentielles générales, donc sur toute l'étendue du pays, et organiser plus tard des élections générales encore, donc les élections législatives, séparées. Et où est-ce qu'on aura cet argent? D'où est venu cet argent pour qu'on puisse même y penser? Et la deuxième chose, la deuxième preuve, c'est une tricherie. Quelqu'un l'a dit parmi les auditeurs d'ailleurs. Nous connaissons notre niveau de maturité politique. Et c'est un engagement qui n'est pas encore lié principalement à l'idéologie. Même les votes, nous émettons souvent des votes plutôt, je veux dire, sociologiques. C'est moins idéologique. Aujourd'hui, un président de la République est élu. Il est proclamé. Monsieur le journaliste, un mois après, deux mois après, on organise les élections législatives. C'est uniquement pour dire que vous n'avez pas de choix. Je suis là pour 5 ans, que vous le vouliez ou pas. Le Parlement que vous allez voter, s'il est contre moi, je peux le dissoudre. Et tout le monde comprendra qu'il n'a pas de choix. Il y a même des quartiers où vous irez pour faire la campagne, monsieur le journaliste, vous êtes candidat, on va vous jeter des pierres. On va dire, vous venez faire quoi ici?
Vous faites sourire, maître Jean-Paul.
Il sait ce que je dis. Il sait que c'est vrai. En fait, les gens vont considérer qu'il y a déjà un président qui est élu pour 5 ans, qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous venez nous dire? Même si vous votez un parlement à majorité de l'opposition, vous savez que la Constitution lui donne le pouvoir de les dissoudre. Donc, les gens, les gens vont se résigner. Et la suite, c'est qu'on va avoir un parlement monocolore. On risque de revenir pratiquement au parti unique. Voilà l'influence dont on parle, voilà la tricherie. Et sinon, quelle est la raison? Qu'est-ce qui peut faire qu'on découpe ces élections? Quoi? Alors, je voulais ajouter un autre élément. M. Jean Bouya semblait minimiser le fait qu'un président élu, sans parlement élu, les services vont continuer à fonctionner.
Non. Au nom de la continuité de l'État.
Très bien. Mais cette interprétation extensive de ces dispositions de la Constitution est dangereuse. Un président de la République élu va donc continuer à travailler avec un gouvernement sans aucune légitimité, parce que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, formé aussi par lui, parce que lui qui présente la liste au président de la République. Et le Premier ministre, selon l'article 78, est désigné et nommé au sein de la majorité. Alors, maintenant, le Premier ministre, là, on va le choisir de quelle majorité? Donc, le président de la République, élu, va continuer à travailler avec un parlement, avec un gouvernement sans aucune légitimité. Et les gens pensent, lorsqu'on dit non la continuité des services de l'État, ils pensent simplement que le président qui va être élu sera le président de la République en exercice. À supposer que le président qui va gagner les élections soit de l'opposition. Donc, vous imposez à ce président-là de l'opposition de travailler avec le Premier ministre Mobutu et son gouvernement et le Parlement tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ça peut fonctionner?
Voilà, Maître Jean Bouillot va répondre tout à l'heure. Professeur Jean-Pierre Mbouébois, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique du Congo. Quelle est votre analyse à ce niveau, professeur?
Moi, personnellement, je considère effectivement qu'il s'agit d'une rumeur qui n'est pas confirmée jusque-là. Mais d'autre part, parce que nous sommes en train de débattre déjà de la question, je dirais que le mandat du président de la République a été voulu, n'est-ce pas, un mandat qui s'achève au même moment que le mandat de membre du Parlement. Alors, ça permet au président de la République de désigner un gouvernement issu de la majorité. Ça voudrait dire que le premier ministre que le président présente fonctionne avec la légitimité qui lui vient du président de la République qu'il a désigné, mais aussi la légitimité du Parlement qui investit son gouvernement. S'il est arrivé que le président de la République, n'est-ce pas, soit renouvelé, ou disons, son mandat s'achève, il se présente, on renouvelle son mandat. Mais que le mandat de son gouvernement ne soit pas renouvelé, on va supposer que le gouvernement là, n'aura plus la légitimité pour travailler. Donc, normalement. Alors, si le gouvernement n'a pas la légitimité pour travailler, ça pose aussi un problème au niveau de l'exécutif. Parce que dans notre pays, le président s'appuie sur un gouvernement que lui-même désigne. Et ce gouvernement, pour qu'il travaille, il faut qu'il y ait justement cette majorité qui est déterminée par les élections législatives. Donc, il n'est pas bon qu'on puisse envisager ces cas de figure-là, parce que ça va poser effectivement des problèmes que nous n'avons pas prévus. Et,
donc ça compliquerait la gouvernance en fait.
Ça compliquerait la gouvernance, et puis en plus, quelle raison ferait qu'on ne puisse pas profiter, n'est-ce pas, de l'organisation des élections pour mettre les deux choses en même temps? Parce que si on convoque tous les citoyens congolais, parce qu'en fait, que ce soit le président de la République ou les élections législatives, c'est organisé au suffrage universel direct. Donc tous les citoyens du pays seront convoqués à venir voter, n'est-ce pas, le président de la République. Et on en profite à ce même moment pour qu'il puisse aussi se prononcer sur le membre du Parlement. Donc pourquoi, pour quelles raisons on déciderait donc de séparer les deux? Parce que l'effort, à mon avis, en termes logistiques, est le même.
Mais vous avez suivi Maître Mbou qui a dit qu'il ne voyait aucun inconvénient, que ça ne causerait pas de problème.
Bon, disons, lui, il est mis aussi dans les cas de figure. Hein. Au début, il a dit aussi que c'est la rigueur, mais parce que, bon, le débat est là, il donne. Hein. Donc, c'est un exercice intellectuel qu'il fait. Mais ce n'est pas que ce qu'il dit là, hein, c'est ça, il est venu avec l'idée de donner ça. Et quand vous demandez à quelqu'un de faire l'exercice, il fait un exercice en disant, mais même si c'était cela que ça posait comme problème. Mais moi, je pense que pour ce qui est de personnel politique qui a un mandat, n'est-ce pas? Le mandat se caractérise par un temps. Donc le mandat signifie que vous avez une durée. Hein? Le mandat se caractérise nécessairement par une durée. Ça veut dire quand on vous donne, vous avez un mandat de 5 ans, ce mandat est valable pour 5 ans. Donc, il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de ne pas respecter ces mandats-là. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où toutes ces choses-là, on est en train de les mettre dans la tête des gens. Donc, les gens doivent apprendre à respecter, hein, n'est-ce pas, les textes. Ils doivent apprendre à savoir que le mandat, par exemple, du président République, c'est 5 ans. Le mandat de nos députés, c'est 5 ans. Il faut qu'il y ait des pratiques qui appuient ce qui est écrit. Si chaque fois nous ne respectons pas ces choses-là, je crains que un jour on trouve que ce sont des choses inutiles. Et pourtant, c'est ça que nous voulons, que ça s'installe dans notre pays. Alors, la théorie aussi de continuité des services publics, hein, c'est bon quand on parle de services publics de l'État. Mais ici, pour ce qui est de personnel qui travaille avec un mandat, de personnel qui jouit d'une légitimité, je pense qu'il est important de renouveler ce mandat-là, n'est-ce pas, par ceux qui ont donné le même mandat. Donc, il ne faut pas que, à partir du fait qu'il y a continué le service public, nous puissions y recourir, même dans des cas pareils. Personnellement, je pense que ce ne serait pas indiqué.
Professeur, il y a cette auditrice Aline Riziki qui m'a dit d'Ovira au Sud Kivu, bon, qui pense que, qu'au lieu de tomber dans des cas de figure très compliqués, elle dit qu'elle souhaiterait simplement que la CENI prolonge le calendrier électoral au lieu d'organiser une élection dans la précipitation.
Pourquoi l'auditrice considère qu'il y a précipitation? La CENI est là, le bureau de la CENI est là, la CENI est en train de travailler, la CENI n'a pas encore dit qu'elle est dépassée. Et donc, l'auditrice ne peut pas considérer que la CENI est en train de travailler dans la précipitation. Hein, il y a des textes, il y a des mandats, donc tout le monde, vous savez qu'il est normal dans la vie que les gens travaillent sous pression, parce qu'il y a des échéances, il y a des textes qui nous obligent, et nous commençons à travailler. Et même si on prolonge et qu'il n'y a pas de précision, il n'y a pas de garde-fous, il faut craindre qu'on tire aussi les choses en longueur et que finalement... le renouvellement du mandat perd de son sens.
Maître Jean Bouillou, vous avez suivi Maître Moïse Nyarugabo, qui pense que le découplage, c'est une forme de tricherie qui pourrait provoquer la résignation de la population et, comme le professeur Mbouyebo l'a dit également, compliquer la gouvernance.
Oui, écoutez, là, nous sommes partis dans le genre de roman de Jules Verne, où c'est la fiction qui va gouverner les débats. Le président de la CENI a dit clairement que rien n'a été décidé. Et donc, nous sommes en train de nous faire des inquiétudes sur des supputations. Ça devient dangereux. De grâce, ça devient dangereux. Parce que nous marchons sur un terrain, effectivement, où plusieurs notions de droit et de politique entrent en considération, et tout le risque aussi de mal les interpréter, faute de cas précis, peuvent survenir. Néanmoins, en ce qui concerne la fin des mandats, notre Constitution a résolu cette question tant au niveau du mandat présidentiel qu'au niveau du mandat législatif. Parce qu'il a dit que les anciennes institutions cessent de fonctionner à l'installation de nouvelles institutions. Ce qui, logiquement, veut dire que tant qu'il n'y a pas de nouvelles institutions, les anciennes vont continuer à travailler. Et ça clarifie ici le principe de la continuité des services publics de l'État. En ce qui concerne la peur de voir un chef de l'État être élu et gouverner pendant un temps sans l'appui d'institutions législatives élues, moi, je pense qu'on est dans le domaine politique. On n'est pas ici dans le domaine de la mathématique ou de la physique. En matière politique, lorsque le chef de l'État est élu, il va garder les institutions qui existent jusqu'à ce que ces institutions-là se renouvellent. Je suis quelque peu, disons, embarrassé par l'inquiétude de Maître Nyarugabo, sénateur, lorsqu'il dit qu'il ne voit pas comment un chef de l'État qui est élu va devoir fonctionner avec un premier ministre qui n'émane pas d'un parlement élu, spécialement lorsque ce dernier est de l'opposition. Si le chef de l'État vient de l'opposition, par exemple. Mais nous avons, dans les institutions politiques étrangères, les politiques étrangères, beaucoup de cas de cohabitation. C'est-à-dire un chef de l'État d'une tendance donnée, un premier ministre d'une tendance donnée, mais les deux essayent de conjuguer leurs efforts pour gérer les affaires d'État ensemble.
Mais dans le cas de Jospin et Chirac, ça n'a pas toujours été très facile, maître.
Bon, j'ai lu les mémoires de Chirac, dans sa cohabitation avec Mitterrand, par exemple. Il dit qu'il a pu quand même travailler avec Mitterrand pendant 2 ans,
et il a constaté que Mitterrand lui a laissé tout un domaine d'intervention dans lequel il était seul, mais il avait néanmoins demandé 3-4 domaines sur lesquels il venait. Et donc, et finalement, c'est le premier ministre lui-même qui a démissionné. Et dans les mémoires de Chirac, il explique que c'est à cause de l'entourage du président de la République qu'on lui a démissionné. Bon, donc, je crois que la cohabitation ne sera pas sans heurts, mais des cas a existé, existe dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, le président Obama est en train de gouverner avec un congrès républicain, et des deux côtés d'ailleurs, et le Sénat et le. Et le Congrès. Donc, d'une certaine manière, c'est possible une cohabitation pendant un temps jusqu'à ce qu'il y ait renouvellement des institutions.
Maître Nyarugabo, la cohabitation est possible.
Je ne veux pas m'étendre sur la question. Parce que l'exemple que mon cher confrère vient de donner, lui-même conclut que le Premier ministre a fini par démissionner. Donc, cette cohabitation n'a pas abouti. Cette cohabitation n'a pas marché. Le Premier ministre a fini par démissionner. Parce que ça n'a pas marché. Et justement, maintenant la question, pourquoi nous devons nous mettre dans ces situations compliquées? Pourquoi ne pas aller aux élections? Pourquoi ne pas organiser les élections présidentielles et les élections législatives ensemble? Comme ça, nous avons un président de la République élu, il y a une majorité. Je préfère encore qu'il y ait une cohabitation lorsqu'au cours des élections, un président qui est élu, ce n'est pas son parti qui a gagné les élections législatives, mais au moins tout le monde a la légitimité du peuple. Et chacun exerce les attributs ou les attributions liées à son poste. Mais dans le cas d'espèce, si cela venait à arriver, le président de la République est élu. Mais il travaille avec une majorité non élue. Est-ce qu'on peut continuer à l'appeler majorité? Lorsque la majorité aura dépassé le délai de son mandat, on peut continuer à l'appeler majorité? Alors, il travaille avec quelle majorité? Qui est investi de quelle légitimité? C'est ça le problème. Et je veux dire, lorsqu'on parle de la fin du mandat, il y a aussi un problème à ce niveau. C'est vrai que notre constitution stipule que les institutions restent en fonction jusqu'à à l'installation des institutions correspondantes. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans la mauvaise interprétation en croyant que jusqu'à ce qu'il y ait d'autres institutions, quel que soit le temps que ça va prendre, les institutions restent. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'élection, le président peut rester au-delà du 6 décembre 2011, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine, de mois, des années. La disposition sera toujours interprété de cette façon, il n'y aura pas un autre président. Donc, le président peut faire un autre mandat, sans élection, parce que cette disposition existe.
Non, monsieur le de nouveau.
Voilà, oui, justement, voilà pourquoi cette disposition a été conçue. D'abord, il ne faut pas l'interpréter en dehors du contexte. C'est la même constitution qui dit que les institutions restent en fonction jusqu'à l'installation d'autres institutions correspondantes. C'est la même institution qui donne aussi les délais, qui donne aussi les périodes pour lesquelles ces institutions doivent être installées. Donc, il faut respecter la Constitution de part en part.
Mais, sénateur Nyarugabo, parce que vous avez relevé plusieurs inconvénients du découplage, ce système n'a-t-il pas d'avantage?
D'abord, moi, je ne vois aucun avantage. Aucun. Je demande à ceux qui pensent que c'est faisable, je ne l'imagine même pas. Et vous avez dit que c'est de la rumeur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous le disons pour que s'il y a quelqu'un qui y pense, déjà arrête. Donc ce débat-là a d'importance que s'il y a un brainstorming quelque part qui réfléchit dans ce sens, nous lui disons d'arrêter. Nous donnons tous ces inconvénients. Et c'est ça notre contribution, pour qu'il arrête, qu'il commence à réfléchir positivement, parce que ça va nous conduire à des désastres.
Professeur Mbouébo, ce système, je me retiens pratiquement de sourire, c'est Maître Mbouébo qui me contamine un peu. Professeur Mbouébo, ce système finalement n'a-t-il pas quelques avantages?
Dans le contexte de notre pays, c'est difficile quand même de les justifier, parce que, il n'y a pas longtemps, effectivement, nous avons dit que le gouvernement n'avait pas assez d'argent pour pouvoir se donner le luxe de multiplier le nombre d'élections. Et donc, l'idéal aurait été que on puisse, n'est-ce pas, profiter de l'organisation des élections pour organiser différentes compétitions, différentes élections, au lieu de découpler ces élections, parce qu'en termes de logistique, en termes financiers, ça coûte très cher de convoquer les gens. Quand on voit le pays, l'immensité du pays, ce qu'il faut comme effort pour déplacer les urnes, pour envoyer les bulletins, dans les délais, etc. Donc, il n'est pas intéressant pour un pays si vaste que la RDC, un pays qui n'a pas tous les moyens pour faire tout cela, de le découpler. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Et en plus, bon, heureusement, nous sommes dans le cas des fictions, on imagine seulement, hein, donc on est en train de faire l'exercice intellectuel. Hein, donc, il est bon que tous ceux qui interprètent le texte l'interprètent positivement. Parce que si on interprète dans les mauvais sens, aussi on peut donner l'impression que les gens ne doivent pas croire à quelque chose. Hein, parce que la Constitution, il y a quand même une logique, il y a un esprit qui est là-dedans, mais on ne peut pas non plus fermer. Hein, on ne peut pas fermer. Lorsqu'on dit les institutions en place restent jusqu'à ce qu'il y ait d'autres institutions, je crois qu'on les comprend dans le sens de leur mandat. Lorsque le mandat est terminé, on a renouvelé, les membres qui étaient là restent en fonction jusqu'au moment où il y aura d'autres. C'est pour qu'on ne se retrouve pas devant un vide. Hein, donc c'est important, on a cette disposition-là.
Mais professeur, vous avez suivi tout à l'heure Maître Mbouyou qui a dit que dans certains cas de figure, la cohabitation est possible.
Vous savez, la cohabitation, c'est bien, mais nous, Congolais, nous connaissons ce que signifie la cohabitation. Hein, le premier gouvernement de ce pays a eu des difficultés, Lumumba Kasavubu, vous avez essayé de s'en donner. Donc la cohabitation dans une culture congolaise, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Hein, nous sommes en train de parler de français. Ils ont combien d'années d'expérience, de démocratie, hein? Mais chez nous ici, je crois que il est bon que des cas pareils, n'est-ce pas, soient minimisés, parce qu'on a connu aussi comment l'opposition a fonctionné ici pendant la Deuxième République avec le président de la République. Le pays était vraiment en difficulté, et donc nous n'avons pas envie de répéter ce genre d'expérience, sauf si c'est le résultat des élections, parce qu'on peut organiser des élections. Vous vous retrouvez avec un président de la République qui est d'un côté et puis la majorité parlementaire de l'autre. À ce moment-là, c'est la force des choses, donc ce sont les urnes qui auront parlé. Mais maintenant, parler de cohabitation, simplement, dans le cas qui nous concerne, le fait que la Constitution, les constituants, a prévu un mandat de 5 ans pour le président de la République, un mandat de 5 ans aussi pour le parlementaire, je crois qu'on n'a pas prévu cette cohabitation. Hein, donc, sauf si c'est le résultat, hein, mais les cas de la France, la cohabitation est arrivée parce que le président avait 7 ans, un mandat de 7 ans, alors que les députés avaient un mandat de 5 ans. Donc, il y avait toujours ce risque-là de 2 ans. Mais dans le cas de d'autres pays, je crois qu'on a essayé de mettre cela pour que l'opinion qui est majoritaire dans le pays, qui désigne le président du BIC, puisse aussi se porter sur sa majorité qui va lui permettre de travailler.
Maître Jean Bouillou, il y a Gérard Kachama Ngoy de Kinshasa qui dit l'idée de séparer la présidentielle des législatives serait une manœuvre de la part de la majorité afin d'éviter d'organiser les élections dans un délai constitutionnel car le mandat des députés prendra fin au mois de juin 2011. Je pense que cette décision risquerait de créer un vide juridique et le président élu serait incapable de nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Bref, réaction.
Donc, je voudrais, avant de répondre à Kachama, dire simplement qu'il y a une étude intéressante qui a été menée par le professeur Ngoma Binda sur justement la pensée et pratique de la démocratie en Afrique postcoloniale, 50 ans avant et après 2010. Et cette étude qui est publiée dans Congo Afrique numéro 448 d'octobre 2010 permet de comprendre, à la fois la relation entre la vie politique et la vie constitutionnelle et le souhait que justement la démocratie reste participative ou encore ce que dit le prof lui-même, que la démocratie chez nous soit à réinventer et qu'elle soit une démocratie communautaire. Ceci, quand on lit cet article, on comprend bien qu'il n'y a rien d'absolu, que toutes les idées fondées sur
les démocraties prêchées dans les livres ne sont que des orientations sur lesquelles on pourrait s'inspirer, mais la lutte véritable reste ce que nous, les Congolais, nous allons essayer de faire. Et d'ailleurs, je vais recommander la lecture également du livre du professeur Jean-Louis Samboka Kangaché qui vient de paraître, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Si vous lisez ces documents qui sont complémentaires, vous allez arriver à la compréhension que les difficultés de la vie politique au sein d'une nation se règlent suivant les contrats politiques qui se passent entre les différentes couches, les différents acteurs, les différentes populations. Alors pour moi, l'inquiétude qu'il y ait une séparation dans le temps entre les élections présidentielles, législatives ou les législatives et les locales, ces difficultés doivent être gérées par la classe politique du pays, tout à la fois en tenant compte des textes qui nous régissent et en tenant compte également des avis techniques que les structures techniques comme la CENI vont pouvoir proposer. Et donc, je ne privilégierai pas l'idée de mécanismes pré-fermés, pré-établis comme les modalités de régler le problème politique. Je me pencherai plutôt du côté des penseurs qui considèrent qu'il faut que des forces politiques se mettent en présence et au regard des textes et au regard des mécanismes, qu'ils y trouvent une solution.
Alors, brièvement, Maître Mboulou, est-ce que le découplage aurait quelques avantages?
Bon, je n'ai pas l'habitude de prendre la langue de bois. Il y aurait d'abord un avantage budgétaire, parce que on pourrait réaliser des élections sur deux budgets différents, ou trois budgets. Il pourrait y avoir aussi un avantage de clarté politique.
C'est-à-dire,
une fois que le chef de l'État est élu, les acteurs politiques vont devoir s'aligner au vu du résultat. Ou bien, nous faisons bloc commun pour que le président ne puisse gouverner sans nous, ou bien nous allons gouverner avec le président. Le sénateur Yarougabo s'est inquiété de cette idée, mais si le président est de l'opposition, mais pourquoi pas lui? Pourquoi ne va-t-il pas se créer sa propre majorité au Parlement?
Voilà, réaction de Rabbi Yarougabo.
Non, justement, ce président doit se créer la majorité par des voies objectives, pas en utilisant son pouvoir dont il est déjà investi pour influencer les élections. S'il gagne la majorité par les élections normales, organisées les mêmes jours, sans savoir quel est le président de la République qui sera élu. Et donc, cette majorité qui ressort des élections organisées normalement, il n'y a aucun problème. Qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, on va s'incliner. Mais même si c'est un président de l'opposition qui sortirait de l'opposition, qui devra influencer la population pour avoir une majorité qu'il n'a pas méritée, voilà ce que j'appelle la fraude, la tricherie. Et je pense que notre constitution, qui prévoit que les institutions restent jusqu'à l'installation de nouvelles institutions, prévoit aussi la fin, et même la fin de mandat de ces institutions-là. Il faut voir ce côté-là. La même constitution prévoit même les dates auxquelles les élections doivent être organisées. Par exemple, le président de la République, l'article 73 précise que les élections, le scrutin est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Donc, et la date des élections, et la fin du mandat, c'est prévu par la Constitution. Pourquoi on voit seulement l'annexe, cette petite phrase qui ajoute pour dire que les élections restent en place. Et tout le reste, on ne voit pas. Mais pour les députés, j'ai entendu que quelqu'un dit que le mandat des députés s'arrête en juin. Je crois que ce n'est pas correct. La fin du mandat, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Le point de départ du mandat des députés et de sénateurs, c'est la date de la validation du mandat. C'est dans la Constitution. Et donc, ça expire au 5e anniversaire de la date de validation du mandat. Ça, c'est autour du 7 septembre 2011.
Mais le découplage aurait un avantage budgétaire.
Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez, monsieur le journaliste. Cet argument, nous l'avons utilisé pour éviter la révision de la Constitution. Nous avons dit les élections présidentielles et législatives seront financées par le budget 2011, les élections provinciales 2012 et les élections locales 2013. On ne nous a pas entendu, on a refusé, alors que cet argument était, en somme, là, véritablement objectif. Mais aujourd'hui, si on découple les élections pour question du budget, alors, on nous a dit
que les élections présidentielles et législatives étaient couvertes, que le budget était là. Alors, où est allé, cet argent dont on nous a parlé le 8 décembre, le président de la République l'a affirmé qu'il s'adressait à la nation. Alors, je veux dire, ce n'est pas... Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement estime que les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. La CENI aussi. Donc, c'est qu'ils savent qu'il y a de l'argent pour ça. Ce ne sera pas en dernier minute qu'on dit qu'on n'a pas d'argent pour le faire.
Professeur Mbouéboa, le sénateur Nyarugabo a dit tout à l'heure que ce découplage pourrait entraîner la résignation de la population par rapport au processus électoral.
Bon, je ne vois pas directement les choses dans ce sens-là. C'est pour cela que nous pensons que les hommes politiques, donc les deux intervenants qui sont avec moi, sont des députés, sont des sénateurs, donc ce sont des gens qui animent, qui participent donc aux institutions, qui ont la responsabilité, et quand ils parlent, ils tiennent compte de leur statut. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a quand même une certaine figure qu'on doit mettre dans la tête des gens. Hein, donc, maintenant, on est dans les cas où nous spéculons en quelque sorte. Hein. Parfois, on spécule, on parle. Mais je crois quand même que pour parler sérieusement, l'idée c'est que les Congolais puissent adhérer à leur constitution, qu'ils apprennent à la connaître et aussi à respecter l'esprit de cette constitution. Donc, sinon, on risque de penser qu'il n'y a rien qui tienne, etc. Donc, les auteurs, les philosophes, font leur travail aussi, hein. Ils réfléchissent, hein. Ils écrivent, ils disent tout ça, ça se négocie, mais il y a quand même des textes hein, qui existent hein, et auxquels nous sommes quand même tenus. On doit essayer d'appuyer aussi le fait que dans notre société, nous sommes des gens d'une culture où les textes n'ont pas de valeur. Les textes juridiques, c'est du papier, et donc il faut qu'on essaye de donner un certain contenu à ces textes-là, qu'on puisse aider les gens à prendre au sérieux les textes. Sinon, il faut craindre qu'avec le temps, les gens commencent à relativiser l'importance de ces textes-là. Or, on a le travail pédagogique d'inciter les gens à respecter un peu les textes. Donc, personnellement, je m'en tiens à ce qui a été déclaré officiellement par les autorités chargées, n'est-ce pas, de prendre position officiellement sur la question.
Alors, professeur, le Congolais doit s'approprier les textes. Quel pourrait être l'apport de la société civile dans ce sens?
La société civile, c'est comme vous nous avez montré les textes, hein, qui est publié, la publication, la diffusion des actes, mais aussi les contrôles sociaux. La société civile doit continuer à exercer un contrôle social sur ce qui décide sur nous. Donc nous devons continuer à exercer un contrôle social sur les personnes que nous avons élues, sur les gens qui exercent, n'est-ce pas, sur nous, les pouvoirs, pour que ces personnes-là continuent quand même à rester dans les droits chemins.
Professeur, pouvez-vous déjà conclure dans moins de 2 minutes, nous allons terminer l'émission.
Ma conclusion par rapport au thème qui a fait l'objet de ces discussions, c'est que, bon, jusque-là, c'est une rumeur. Nous pensons qu'il est bon pour ces pays de respecter les textes et que cela va être quelque chose dans notre culture. Ça peut aider le pays à aller de l'avant.
Maître Zambouyou, conclusion.
Conclusion, le président de la CENI a dit que la CENI ne s'est pas encore réunie. Et donc là, c'est la spéculation. Je veux dire, c'est le communiqué de la société civile en la personne de l'ONG Azado.
Mais n'y aurait-il pas des gens qui sont en train de réfléchir dans ce sens, comme a dit le sénateur Nyarugabo?
Alors ça, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais le président d'Azado, Ngefa Atondoko, est lui-même candidat à président de la République. Donc là, il y a quand même aussi un relativisme à faire entre la mission de la société civile et la mission civile et la mission politique.
Honorable Nyarugabo, conclusion.
J'espère que c'est de la rumeur, que ça va rester de la rumeur, ça va s'arrêter à la rumeur. Mais si quelqu'un y pense qu'il s'arrête, est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quelle situation vous aurez mis le gouverneur, les militaires, la police, l'administration, d'organiser les élections pendant qu'il y a un président déjà élu qui est là pour 5 ans?
Voilà, Maître Mbouyou Ngefa est présent honoraire de l'Azado. Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des millions à nous suivre partout au monde grâce à RadioCapi.net. Merci à l'équipe de dialogue entre Congolais, Guy Maté, Kevin Kouté, Samuel Kachat, supervisé par Félicité Lamondo, à la technique, Alain Goy et Patrick Yaskongwa, coordination et présentation, Alain Hiroum Mouchis, à demain, Inch'Allah.
Thank you.